RCF donne la parole aux associations locales et aux ONG. Et c'est dans Solid'Aide.
Bienvenue dans l'émission Solid'Aide. Nous allons aborder aujourd'hui, mais aussi dans les prochaines émissions avec le réseau wallon de la lutte contre la pauvreté, la thématique du statut de cohabitant. À travers différents profils, témoignages, histoires de vie, nous allons découvrir ce que fait subir aux gens ce statut. Aujourd'hui, nous commençons avec l'impact du statut de cohabitant sur le logement. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claude Chenet, responsable de projet. Bonjour.
Bonjour.
Et Anne, témoin du vécu et militante. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, avant d'aborder l'impact de ce statut de cohabitant sur le logement, il est peut-être intéressant d'expliquer ce que c'est ce statut. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle du statut de cohabitant ?
Alors, le statut cohabitant, il existe depuis le début de la loi sur les CPS en 1974. À l'époque, on parlait du minimex. Et déjà, à ce moment-là, le statut était en chef de famille isolé cohabitant. Et il faut savoir qu'au niveau du CPS, il s'agit avant tout d'un montant déterminé qui permet effectivement de voir si il doit y avoir une intervention du CPS sur pour permettre à la famille, au ménage, de vivre décemment. Alors le chômage, par contre, ce statut cohabitant n'existait pas avant les années 80. Et il a été mis en place de façon momentanée à l'époque, encore et toujours, par le gouvernement à l'époque, dans l'intention de pouvoir faire effectivement des économies au niveau du budget. Donc voilà, une fois que la situation allait être rétablie, les années 80, c'est quand même le début de la crise, l'idée était effectivement de supprimer ce statut. Voilà, donc les années 80 pour le chômage, la mutuelle, en fait les revenus des mutuelles, donc la revenu plutôt en matière de santé, soins de santé au niveau de l'INAMI. Ce statut, lui, il est arrivé dans les années 91. Et puis le petit dernier, c'est au niveau de la GRAPA. La GRAPA, c'est la garantie des revenus aux personnes âgées. Quand la pension est trop faible, il y a un complément possible au niveau de la pension, ce qu'on appelle la GRAPA. Et là aussi, quand on est cohabitant, ce statut adopte un revenu diminué comme cohabitant.
Voilà. D'accord. Alors, le réseau wallon travaille justement sur ce statut de cohabitant pour l'instant. Vous le citez injuste. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer pourquoi ce statut est injuste et dans quel contexte ?
Oui, alors j'ai précisé dès le départ qu'au niveau du CPS, il y a avant tout un calcul sur le montant dont dispose la famille pour vivre décemment. Donc ça, c'est un peu particulier, mais... Au niveau du chômage et la mutuelle, ce sont effectivement ce qu'on appelle des systèmes assurantiels. Hein, donc en fait, quand on travaille, on cotise avec l'employeur d'ailleurs pour effectivement se prémunir sur le risque d'un chômage ou d'une maladie. Hein, on est bien dans ce schéma-là. Et qu'on soit, quelque manière qu'on soit dans face au travail, on cotise tous de la même manière. Et puis voilà que quand on tombe au chômage, si à un moment donné on est dans un statut cohabitant parce qu'on cohabite avec son mari, son conjoint, ses enfants, et qu'un autre revenu est dans le ménage, on a ce foutu statut cohabitant qui réduit quasiment de moitié le montant des allocations, puisque un statut isolé, alors en gros, hein, c'est plus ou moins 100 euros au niveau du statut isolé pour le chômage. Du statut isolé pour le chômage, et on est à 572 quand on a un revenu d'isolé, de cohabitant. Donc effectivement, c'est quand même une fameuse perte de revenus pour les ménages.
Dans ce statut de cohabitant, dans votre communiqué, vous insistez sur les femmes qui sont particulièrement victimes de ce statut de cohabitant.
Oui, parce que dans la structure familiale traditionnelle, c'est souvent l'homme qui fait un travail temps plein. Et quand il y a des ménages avec enfants, souvent la femme était un peu avec un temps partiel ou déchargée du travail pour s'occuper des enfants. Et donc souvent, c'est elle qui a une position beaucoup plus fragile en matière d'emploi. Et souvent, ce sont les femmes qui sont en majorité avec ce fichu statut cohabitant. Et je pense que les chiffres de mémoire, je crois que c'est proche de 80% des cohabitants sont des femmes. Et donc la Belgique, dans les années 2000, a été condamné par l'ONU dans la commission sur le social et économique, les droits sociaux et économiques, parce que précisément ce statut est discriminant vis-à-vis des femmes, et la demande était de le supprimer effectivement de façon à ne plus pénaliser de cette manière-là les femmes qui étaient touchées par ce statut.
Aujourd'hui, ça fait donc 20 ans et c'est toujours pas supprimé.
Et voilà, toujours pas supprimé. Et donc, ça nous semblait vraiment urgent de le rappeler, urgent de le répéter. Et de plus en plus, les différents mouvements sociaux, les mouvements féministes, les associations réclament maintenant vraiment la suppression de ce statut. C'était compliqué parce que au statut cohabitant sont également attachés ce qu'on appelle les droits dérivés, à savoir que quand dans un ménage, précisément la femme n'a jamais travaillé, du fait qu'elle était mariée, par exemple, elle avait une série de droits dérivés qui étaient liés au travail de son mari. Voilà, la structure familiale a complètement changé. On est dans des situations où on connaît de plus en plus les situations aussi de colocation, par exemple, pénurie de logement, faut-il le signaler. Et donc, voilà, il faut ce statut, maintenant, il est grand temps de le supprimer. Et il y a convergence, véritablement, des syndicats également, pour demander la suppression de ce statut.
Eh bien, la première partie s'achève déjà. Merci Marie-Claude pour ces explications sur le contexte. Je vous propose une courte pause musicale, une chanson choisie par Anne, militante du réseau wallon de la lutte contre la pauvreté. C'est la chanson de Juliette Nourdine, Rime féminine.
Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette Nourdine en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin ou Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bien, ne retrépas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît, Juliette Drouet, la signore, ou la grande Julie. Chantant avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, la farouche Isadora Duncan, pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Lavé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux métempsychoses, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Miss Ringuette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette.
Nous sommes toujours dans l'émission Solidaire, toujours en compagnie de Marie-Claude Chesnais, responsable de projet du réseau de lutte contre la pauvreté, et Anne, témoin du vécu et militante. Nous abordons le thème du statut de cohabitant dans le logement. Et donc, nous revenons vers vous, Anne, témoin du vécu et militante. Pouvez-vous nous parler grosso modo de votre situation et de quel impact a eu ou a encore actuellement le statut de cohabitant sur votre quotidien, votre vie?
Oui.
En fait, il a eu, je l'ai vécu tout le temps puisque j'avais le statut d'artiste. Enfin, et j'avais pas le statut d'artiste avant, puis c'est arrivé. Et donc, j'étais par moments en couple avec un enfant qui était souvent pas l'enfant de son père parce qu'on a eu une séparation. Et donc, j'étais une mère avec enfant qui travaillait et puis qui tombait au chômage puisque, voilà, le statut d'artiste. Et donc, chaque fois, je me retrouvais au statut cohabitant. Et je dois dire que mon compagnon aussi, en fait, quand il ne travaillait pas, donc à un moment donné dans une période de ma vie, j'étais avec quelqu'un qui travaillait aussi dans le cinéma, et on était tous les deux cohabitants en fait. Quand on était au chômage en même temps, il n'y avait pas de chef de famille, il n'y avait même pas de chef de famille en fait. Moi, je pense, mais il faudrait peut-être le vérifier, mais je pense que j'avais quand même droit à un statut cohabitant spécial entre guillemets, parce que j'avais un enfant à charge. Mais j'étais pas chef de famille, quoi. J'avais pas un chômage. Il y avait aucun de nous deux, d'ailleurs, n'en avait un comme ça. Donc, moi, je l'ai bien pratiqué, le statut cohabitant, quand j'étais au travail. Et puis, maintenant que je suis dans une autre période un peu désagréable, je suis en invalidité de la mutuelle. Et là, maintenant, en fait, il me bloque plutôt. C'est-à-dire que je me suis déjà dit, voilà, c'est pas beaucoup d'argent. Je sais pas quand je pourrais me remettre au travail parce que voilà, c'est un peu compliqué. Et plein de fois je me dis, mais je voudrais, enfin c'est lourd la charge d'un loyer tout seul quoi. Et par exemple mon fils aussi, il est dans le truc des flexi jobs quoi. Donc il travaille pas, il est au chômage. Et je me dis, on pourrait habiter ensemble, en tout cas partager un logement, partager toutes ces charges là, et le reste, enfin avoir une machine à laver, ça, enfin voilà. Et non en fait, parce que lui perdrait une grosse partie de son revenu, de son allocation, et moi aussi, et donc voilà, pénalisé quoi.
Ça c'est votre situation actuelle. Est-ce que vous, Marie-Claude, dans les autres témoins du vécu, vous avez des situations fort semblables à celle d'Anne?
Oui, ce qu'on entend tout le temps, c'est la crainte et la difficulté pour les personnes de pouvoir se projeter dans une vie comme on voudrait la vivre, tout simplement. Et donc oui, on est tout le temps, les gens sont tout le temps devoir se demander, ok, et si je décide maintenant de me mettre en couple, ce que beaucoup de personnes ne voudraient pouvoir vivre librement, la première question, c'est de dire, oh, mais attends, parce que ça, si on fait ça comme ça, on va perdre chacun quelque chose du revenu, est-ce qu'on va s'en sortir? Et donc c'est un frein en permanence. Et on connaît malheureusement beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et donc qui, plutôt que de risquer de voir effectivement leur revenu franchement réduit, il faut savoir qu'une l'économie entre guillemets qui est réalisée quand on partage un logement, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se permettre de prendre un logement plus grand, généralement qui est de meilleure qualité, avec un espace de vie certes commun, mais plus confortable. Parfois même un jardin ou une petite cour, ce qui est quand même, on l'a bien vu avec le fichu confinement, c'était vraiment un plus aussi. Mais l'économie, elle est sur le loyer, sur les charges, mais le reste du ménage, chacun vit ses charges individuellement, les frais quotidiens, ça appartient à chacun. Et donc l'économie, elle peut être intéressante, elle peut être importante, y compris dans la qualité de vie au niveau du logement, mais ça reste un choix. Et la crainte est toujours là de se dire, ok, maintenant je travaille et toi aussi, donc il y a pas de souci. Mais si demain un de nous perdait son travail, comment est-ce qu'on ferait? Alors on doit aligner les chiffres et puis on se rend compte que, oups, ça devient quand même très juste si on a le statut cohabitant. Et c'est en permanence cette question qui revient sur est-ce qu'on ose passer le pas et se mettre en habiter ensemble ou pas. C'est en permanence un frein sur la façon dont on peut se projeter comme on voudrait tout un chacun. Je peux simplement dire, moi j'ai une vie comme ça avec un compagnon. Il habite Bruxelles, moi j'habite en Wallonie. Je travaille, il travaille. Je lui ai dit un jour, mais tu te rends compte que si un de nous deux était au chômage, on ne pourrait pas vivre comme on vit. On aurait peur qu'un voisin, à un moment donné, nous dise « bizarre, il y a tout le temps une voiture devant chez un tel ou chez un tel ». Et on le sait malheureusement, Il y a aussi de la dénonciation. C'est quelque chose malheureusement qu'on entend de plus en plus, se demander d'où ça vient, mais voilà, c'est comme ça. Et donc oui, voilà, par exemple, j'ai la chance de travailler et de pas devoir me poser cette question, mais elle pend au nez de tout le monde. Ce statut cohabitant est vraiment quelque chose qui est... je sais pas, Anne, aide-moi, trouve-moi le bon mot.
mais en fait, j'étais en train de le penser pendant que tu disais ça. C'est stigmatisant et c'est discriminant parce que souvent, statut cohabitant signifie allocation sociale, allocataire social. Et donc, situation pas forcément drôle. Parce que malgré ce qu'on peut penser, on n'a pas très envie d'être en invalidité, de se retrouver au chômage, de, etc., etc. C'est parfois un peu la double peine, c'est de vivre des choses, désagréable dans son corps et ou dans son moral et là on est un peu a priori criminalisé quoi, c'est-à-dire que fraudeur c'est tout ce qui roule un peu sur et donc forcément quand et puis la chasse aussi aux cohabitants, vraiment il y a une chasse par exemple dans les CPAS
donc,
ouais.
Donc faut savoir que certains CPAS sont effectivement engagés spécifiquement des personnes pour contrôler effectivement le statut des personnes, voir si oui ou non les personnes sont cohabitantes. Et donc, pour rappel, quand on est travailleur social, assistant social dans un CPAS, et que de l'autre côté, malheureusement, on doit dépendre d'un revenu d'intégration sociale, la relation entre les deux doit s'établir sur une base saine de confiance, de façon à ce qu'on puisse effectivement... en toute confiance, réfléchir ensemble à comment effectivement dépasser les difficultés qu'on a à un moment donné pour pouvoir repartir dans une vie active dans laquelle on est inclus dans la société, etc. Or, quand on sait que le CPS a engagé des personnes spécifiquement pour des contrôles, vous savez, il faut pas être pour autant dans la fraude, puisque c'est le terme qu'on utilise, pour se sentir contrôlé. On peut très bien être totalement droit dans ses bottes et ne pas malheureusement devoir, par survie, rentrer dans des situations qui sont un petit peu limites au niveau de la réglementation. Mais se savoir en permanence ce contrôle qui est là, c'est extrêmement usant pour les gens. Et ça ne permet pas de faire un travail en toute construction valable et valide avec les travailleurs sociaux. Et par ailleurs, il y a plein de travailleurs sociaux qui n'en peuvent plus, qui sont plus là dans un travail de contrôle que dans un travail de soutenant et d'accompagnement. Beaucoup de gens nous le disent au niveau des CPS et le CPS c'est quelque chose vraiment d'important dans le parcours des personnes qui sont à un moment donné en difficulté. Malheureusement, quand on en arrive effectivement à ne plus pouvoir l'envisager que sous l'angle du contrôle social, ça devient très difficile pour tout le monde d'avancer, ça c'est clair.
Tout à fait. Alors, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Je vous propose d'écouter « Ce que l'on met au monde » de Linda Lemay.
Ne nous appartiennent pas, c'est ce que l'on nous montre et c'est ce que l'on croit. Ils ont une vie à vivre, on ne peut pas dessiner les chemins qu'ils vont suivre, ils devront décider. C'est une belle histoire que cette indépendance. Une fois passé les bois et la petite enfance, qu'il ne faille rien nouer, qu'on ne puisse pas défaire, que des nœuds passèrent et des boucles, si l'on préfère. Ce que l'on est ne nous appartiennent pas. Ils sont ce qu'ils veulent être, qu'on en soit fier ou pas. C'est ce que l'on nous dit, c'est ce qui est écrit. La bonne philosophie, la grande psychologie. Et voilà que tu nais et que t'es pas normal. Dodu, t'es parfait, le problème est mental. Et voilà que c'est pas vrai que tu vas faire ton chemin, car t'arrêteras jamais de n'être qu'un gamin. Tu fais tes premiers pas, on se laisse émouvoir, mais les pas que tu feras ne te mèneront nulle part. Qui es-tu si t'es pas un adulte en devenir? si c'est ma jupe à moi, pour toujours qui t'attire. C'est parce qu'on m'avait dit, j'étais pas préparée, t'es à moi pour la vie, le bon Dieu s'est trompé. Il y a le diable qui rit dans sa barbe de feu, et puis qui me punit de l'avoir prié un peu. Pour que tu m'appartiennes à la vie, à la mort, il t'a changé en teigne, il t'a jeté un sort. T'es mon enfant d'amour, t'es mon enfant spécial, un enfant pour toujours, cadeau des étoiles. Un enfant à jamais, un enfant anormal, c'est ce que j'espérais alors. Pourquoi j'ai mal? J'aurais pas réussi à me détacher de toi. Le destin est gentil, tu ne t'en iras pas. T'auras pas 18 ans de la même façon que ceux que le temps rend plus homme que garçon. T'auras besoin de moi, mon éternel enfant, qui ne t'en ira pas vivre en appartement. Ta jeunesse me suivra jusque dans ma vieillesse. Le docteur a dit ça, c'était comme une promesse. Moi qui avais tellement peur de te voir m'échapper, voilà que ton petit cœur me jure fidélité. Toute ma vie durant, je conserverai mes droits, mes tâches de maman, et tu m'appartiendras.
Nous sommes de retour dans cette dernière partie, toujours en compagnie de Marie-Claude et Anne. On parle du statut de cohabitant, donc avec le réseau wallon de la lutte contre la pauvreté. On a parlé de toute cette charge, de tout ce contrôle qui est mis sur les personnes comme vous, Anne, témoin du vécu. Des fois, on n'ose pas, on a peur, on se pose des questions parce que tout est un peu conditionné. Vous avez ceci si vous faites ça.
Oui, mais je l'ai même vécu, moi, enfin, ça n'a rien à voir avec le statut cohabitant, mais je l'ai vécu en tant qu'artiste, donc j'étais costumière, et donc, à partir de 45 ans, j'ai été convoquée par le chômage, et j'étais censée faire un contrat à durée indéterminée. Et je leur disais, mais pardon, mais j'ai un métier. Et non, en fait, pour eux, j'étais un chômeur. Et donc, enfin, cette conditionnalité, c'est-à-dire, vous êtes un chômeur, vous êtes censé être à la recherche d'un emploi, à durée, enfin indéterminée, ce qui n'existe plus hein, quasiment, je pense pour le moment, et tout est tout le temps conditionné en fait. C'est la même chose quand on est, quand on reçoit le RIS, on est dans un truc d'insertion, donc on est censé, oui d'accord, on vous donne un peu d'argent pendant ce temps-là, mais non, vous allez rechercher un travail, vous allez devoir faire autre chose quoi, que coûter de l'argent à la société quelque part. Et donc il y a toujours une sorte de c'est tout le temps une pratique de négociation. On fait un peu de l'ingénierie sociale, on peut dire ça, de l'optimisation. C'est qu'on calcule tout, quoi. Oui, mais si, enfin, je veux dire, si je comprends tout à fait bien les maires, par exemple, qui se disent, oui, mais si je gagne autant avec mes deux enfants, mes frais de garde, mes transports, mes machins, mes bazars, eh ben, ça va peut-être pas me rapporter beaucoup plus d'argent. Et en plus de ça, ça va surtout me rapporter beaucoup plus de peine, en fait. Et donc. Enfin, c'est pas de la fraude, c'est de la survie en fait. C'est on subit aussi ça en fait, je trouve. On subit on subit ce statut quoi. Parce que moi je trouve que c'est un peu un truc de, on tombe dans un trou comme Alice au Pays des Merveilles qui tombe sans arrêt. Et chaque fois on peut tomber de sanction, en c'est comme ci, c'est comme là. Et vous avez pas fait ça, et vous êtes pas depuis longtemps, vous avez pas droit à ça parce que vous êtes pas. Enfin bref, on est soit pas assez travailleurs ou soit pas assez allocataires sociaux en fait aussi. Voilà, donc parfois c'est un peu bref, on sait pas où se mettre quoi.
On revient sur le statut de cohabitant dans le logement. Dernièrement, les politiques ont fait sauter ce statut, donc c'est faisable. C'est dans le cadre des inondations. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer un petit peu, Marie-Claude.
Oui, alors c'est un peu ironique, hein, puisqu'effectivement, nous on réclame la fin du statut cohabitant, notamment en soulignant qu'au niveau du logement, ça permettrait effectivement simplement la solidarité entre les familles, entre les amis, ou même de couple, je veux dire, quand on hésite à un moment donné à s'installer ensemble. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement suite aux inondations? Grand nombre de personnes se sont retrouvées sans logement. Devant le manque de logement au niveau de la région, mais c'est malheureusement généralisé sur le pays, hein. Le manque de logement disponible pour reloger les personnes, la réponse qui a été trouvée, c'était de dire bon, ok, exceptionnellement, pendant cette période, on va supprimer le statut cohabitant, mais uniquement pour les personnes sinistrées et les accueillants de sinistrés, comme étant la réponse au manque de logement. Donc c'est carrément le processus retourné à l'envers, quoi. Donc exceptionnellement ici, ça a été acquis, puisqu'effectivement, mais il n'y avait pas la capacité de reloger les personnes dans des logements individuels dans lesquels ils auraient pu garder leur revenu, évidemment. Donc voilà, c'est un exemple. Ça s'est passé aussi au moment du Covid, exceptionnellement, avec le chômage temporaire. Comme si, là aussi, hein, le chômage du Covid, c'est un chômage qui n'était pas choisi et que tous les autres chômages étaient des chômages choisis. Bon, ben voilà, pour le chômage temporaire Covid, il n'était pas soumis au statut cohabitant. Voilà, on voudrait bien qu'il y ait une réflexion un petit peu plus élargie sur ces deux exceptions, même si on les souligne évidemment positivement de notre côté.
Donc on a parlé de cette nécessité de la fin de la cohabitation. On a envie aussi de voir un petit peu ce que ça représenterait au niveau des coûts, des avantages de la fin de cette cohabitation.
Alors oui, fin du statut cohabitant.
Fin du statut.
Hein. Donc la fin du statut cohabitant, le coût, en gros, hein, estimé à plus ou moins 3 milliards, ce qui peut effectivement sembler énorme. Maintenant, si on le met en parallèle avec le sauvetage des banques, c'est le traditionnel clin d'œil. Voilà, il faut remettre ça dans un contexte au niveau d'un PIB, bien entendu. Mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que la fin d'un statut cohabitant, ça permet effectivement d'enlever toute cette pression dont on a déjà parlé longuement sur les personnes, ce poids qui est tout le temps là, comme une espèce d'épée de Damoclès, qu'est-ce qui se passe si je fais ceci, si je fais cela, cette crainte, cette tension, mais l'isolement aussi, hein, je veux dire, dès lors qu'on habite avec d'autres, ben, on se sent mieux, comme le disait Anne, on peut à un moment donné se reposer aussi sur la famille, si on a des problèmes de santé, ben on sait qu'on sera pas seul si jamais à un moment donné on a une crise ou quelque chose de cet ordre-là. Et on sait aussi que ben voilà, un logement de meilleure qualité, ça permet aussi aux personnes de mieux vivre tout simplement. On sait que malheureusement les logements de mauvaise qualité ont un impact terrible en termes de santé. Et donc, de coup, en termes de santé, l'Europe avait fait un travail de prospective qui avait pu démontrer que 1 euro investi dans le logement correspondait à 3 euros de retour en matière de soins de santé, donc de diminution de l'impact du coût des soins de santé. Ça montre bien qu'effectivement, c'est une valeur centrale que de pouvoir investir dans le logement et permettre aux gens de choisir le type de logement qu'ils veulent et leur manière de vivre. Quand on doit prendre un logement seul, on est obligé de choisir des loyers qui sont proportionnels aux revenus dont on dispose. Et malheureusement, on le sait, les plus petits logements sont bien souvent les logements de moindre qualité. Donc on est dans cette espèce de cercle infernal dont il faudrait pouvoir sortir. Supprimer le statut cohabitant, ça permet de laisser les gens libres dans leur choix et leur façon de vivre. Et donc nous, ce qu'on plaide, ce qu'on demande absolument, c'est ce qu'on appelle l'individualisation des droits. Donc chaque personne aurait effectivement un revenu qui lui soit propre en matière d'allocation sociale. Et ça lui permet à ce moment-là de s'inscrire et de se projeter sans continuellement devoir calculer et imaginer les difficultés qui pourraient être les siennes si à un moment donné il y a cohabitation. Mais ça permet aussi à tous les jeunes maintenant, hein, qui veulent se lancer dans la colocation, de pas se taper la tête sur est-ce que ça ira, est-ce que on va accepter si jamais il y a un couac dans le parcours, comment est-ce que je vais m'en sortir. Voilà, c'est une autre manière de vivre qu'on entend de plus en plus, qui est demandée. Voilà, ça nous semble tellement évident qu'il est grand temps que ce statut cohabitant disparaisse.
Eh bien voilà, pour cette première émission avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, merci Marie-Claude, merci Anne d'être venue témoigner de ce statut de cohabitant, de l'impact de ce statut de cohabitant sur le logement, et je vous souhaite une belle journée.
Merci.
Merci.
Sans souci, oh, sans souci, they got no room here for someone like me. The monkey starts to giggle when he springs from water wriggle down the mountainside. I can hear the fishes swishing, just as loud as that I'm wishing when I'm hypnotized.
Trouble, go, go.
soucis.